Avant de lire les évangiles, nous prions. Seigneur, souffle sur les pages de notre Bible et retourne-les dans tous les sens pour que des mots anciens reprennent vie et que dans notre vie, les pages se tournent. Alors, l'évangile de ce jour qui a été choisi par Paul est dans Marc, au chapitre 4, au verset 35. Levez sur votre feuille. Le soir de ce même jour, il leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, il l'emmène comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Survient une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau. Déjà, il se remplissait. Lui dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Réveillé, il rabroua le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est-il donc, celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent ?»
Paul, pour son baptême, a choisi un récit où des disciples sur un bateau qui est pris dans une bourrasque. Bourrasque, notez bien qu'il s'agit ici d'une bourrasque et non pas d'une tempête, comme le racontera plus tard l'évangile de Matthieu, qui, voyant le texte de Marc, s'est dit ben, « une bourrasque, on va mettre une tempête quand même, une très grande tempête ». Des disciples, donc, qui se sentent menacés de tomber à l'eau et de se noyer, mais qui finalement ne tombent pas, ni ne sont noyés, puisque le calme, vous le savez, puisque c'est quand même un peu le récit de la tempête apaisée, le calme revient. Donc une fois qu'on a lu ce récit, on est déjà apaisé. Mais le prédicateur doit refaire la tempête. Le calme revient car si une bourrasque est véritablement très violente, elle est de courte durée. Mais oui, quand on est pris dedans, malgré tout, on ne le sait pas. Les disciples ne le savaient pas et nous, nous resterons toujours à nous demander si Jésus, lui, le savait, lui qui était en train de dormir. Paul, quand il m'a présenté ce texte pour le jour de son baptême, eh bien, Paul n'aurait absolument pas pu mieux faire pour dire ce dont il est question quand on évoque le baptême. En effet, une des significations profondes du baptême, c'est la mise en scène d'une expérience de noyade et puis d'un sauvetage par un sauveteur. Car le baptême, contrairement au rite d'ablution qui implique aussi de l'eau, le baptême nécessite, vous l'avez vu, la présence d'une autre personne qui relève le baptisé qui est plongé au fond de l'eau, ce qui signifie non seulement un passage de la mort à la vie, mais aussi signifie la nécessité de ce sauveteur. que l'officiant du baptême va figurer. Bien entendu, je ne me prends pas pour le sauveteur. Mais je le figure, ou n'importe qui baptise figure cela. Et les deux protagonistes, les deux participants à ce baptême, les deux renvoient à l'évangile de Pâques qui proclame que le Seigneur Jésus lui-même a été relevé de la mort par la grâce de son Père. Ainsi, par ce choix d'un texte pareil comme le texte du jour, je savais que Paul avait bien fini son catéchisme, en fait. Et qu'il avait tout saisi de ce qui est important dans cette affaire. Donc si un jour vous devez à quelqu'un expliquer une des significations profondes du baptême, repensez à ce baptême où Paul aura été baptisé, et prenez ce texte de Marc comme fil d'Ariane. Ne prenez pas celui de Matthieu qui, lui, donc, raconte un véritable miracle face à cette fameuse grande tempête. Il dit même séisme. Bon, ça, c'est clair. Mais prenez plutôt celui de Marc qui est plus humain. Et allez-y, racontez quelque chose, annoncez l'évangile. Paul, à travers son choix, habituellement quand je dis Paul, c'est toujours l'apôtre, et aujourd'hui non. Alors Paul, à travers son choix de ce récit et à travers son témoignage, vous l'avez entendu, bien reçu, a déjà bien annoncé l'évangile et a ainsi déchargé le prédicateur que je suis d'une partie de cette tâche. Et ça, on s'était entretenu là-dessus. Mais je ne savais pas du tout le contenu de ce qu'il allait dire, et j'en suis très heureux après l'avoir entendu. Néanmoins, je voudrais, moi, vous rendre attentif à certains éléments de ce récit qui pourraient éventuellement vous aider à en dire quelque chose vous aussi. On l'a vu ici, donc, il s'agit d'une bourrasque, et le lac de Tibériade, 160 km², pour ceux qui sont allés, ben, je pense que vous avez bien vu que ça ressemblait à une mer. Eh bien, ce lac est bien connu pour la soudaineté de ses tourbillons, bourrasques et tempêtes. Et bien entendu, les disciples le savaient aussi. D'où quand même un certain étonnement pour le lecteur devant leur réaction totalement paniquée. Mais il faut dire aussi à leur décharge que c'était bien Jésus qui leur avait demandé de passer sur l'autre rive le soir, au moment où les températures changent, justement ce qui provoque des problèmes. Et peut-être que certains parmi les disciples, au moins quatre, hein, anciens pêcheurs chevronnés, auraient pu se dire qu'en fait ce n'était pas le moment de traverser. Mais puisque c'est Jésus qui le dit, ça va bien se passer. Mais non. D'où cette panique, mais une panique faite de remontrance qu'on retrouve dans cette phrase sublime. Nous sommes perdus, sous-entendu à cause de toi. Nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Je dis sublime car cette phrase, en fait, est directement inspirée des plus belles remontrances bibliques faites à Dieu. Et c'est là qu'on voit que des textes apparemment simples sont tout à fait reliés à plein d'autres choses. Par exemple, dans le psaume 28, « Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. » Ou dans le livre d'Habacouc, au chapitre 1, « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. » Ou, évidemment, dans le livre de Job, au chapitre 19, « Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et pas de justice. » L'humain est désemparé dans sa foi à un Dieu qu'il croit être responsable de tout, d'une part, et qui, en plus, ne répond pas, puisque, semble-t-il, il dort. Comme dort Jésus dans ce récit, et d'un sommeil très profond. Nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. Moi, je dirais que c'est l'essence même de la prière. La prière qui vient du cœur, la prière qui palpite. Finalement, la prière, un cri pour réveiller un Dieu qui dort. Les amateurs de lecture biblique pensent par exemple, à travers ce récit, à Jonas, vous savez, qui a été jeté à l'eau pour calmer une tempête, et je cite Jonas parce que Paul, je sais, à l'école biblique, a participé à la mise en scène resplendissante de Jonas avec une extraordinaire baleine, mot qui n'est pas dans le texte, etc. Et puis, dans le Nouveau Testament, on se demande souvent ce que veut dire Jésus quand il parle du signe de Jonas. Bon, là, du coup, peut-être qu'il faut le chercher là, le signe. Mais les amateurs de Bible pensent surtout à cette question suspendue, on va dire, du psaume 8. Une question qui n'est peut-être pas qu'une question rhétorique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Jésus, que le vacarme de la bourrasque n'a pas du tout gêné, a quand même été réveillé par les cris de ses disciples, et vous l'avez entendu, donc ça c'est la partie miracle éventuelle, il ordonne au vent et à la mer de se taire, et ensuite, tout de suite, il traite ses disciples de peureux. C'est une remontrance contre une remontrance, et je trouve ça assez fair play après tout. Et il interroge leur confiance. Il agit un peu comme quelqu'un dans un immeuble qui, réveillé par les bruits de ses voisins, se met tout à coup à hurler à la fenêtre pour en fait réveiller tout le monde. Et de fait, la réaction de Jésus a de quoi réveiller les disciples de leur peur, mais aussi, sans faire de jeu de mots, de leur torpeur, dans le sens où ils ne sont pas encore véritablement confiants. Mais on les comprend quand même. Au milieu de cette tempête dont ils ne savent pas qu'elle sera de courte durée. On les comprend parce que c'est nous les disciples en fait. Le comportement des disciples, c'est un message adressé au lecteur, c'est un secret de Polichinelle. Alors on va laisser en suspens finalement la question du miracle ou non dans cette histoire, et peut-être que Jésus savait que cette tempête n'allait pas durer. L'important ici en fait, c'est le changement dans la conception de l'action divine. C'est ici l'annonce de la fin de la pertinence des plaintes continuelles, et en particulier contre Dieu. Des plaintes qui se glissent souvent en catimini dans des psaumes de louange. Il ne s'agit plus de se plaindre et de s'offusquer du présumé silence de celui qui ne répond pas, alors que nous sommes en train d'être affligés. Si nous pensons que Dieu dort, eh bien il faut employer la prière comme un cri pour le réveiller. Mais surtout, il faut prendre conscience enfin que de toute façon, la barque dans laquelle nous sommes embarqués est fragile. Et que les bourrasques, il y en a. Il y en a eu et il y en aura. La foi, c'est l'autre nom de la confiance. Disons que la foi, c'est la confiance sublimée. La foi nécessite d'être envisagée par temps calme d'abord. Pour le moment où elle sera utile et réelle dans un temps de tempête. Alors c'est à ça que les récits servent. Ils doivent être lus, ils doivent être médités, et je dirais ils doivent être expérimentés par temps calme, car il sera impossible de lire quoi que ce soit dans la tempête. Comme le dit un cantique, notre barque est en danger. Et le chrétien qui a fait l'expérience du baptême répond d'une certaine manière, notre barque est en danger, et alors ? S'affronter avec, déchiffrer, se battre avec les textes bibliques, pour un chrétien, c'est comme la Madeleine de Proust. Alors pourquoi ? C'est vivre une expérience qui un jour prendra toute sa valeur. Et je cite donc la recherche du temps perdu, phrase que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment, « Mais à l'instant où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis. » Et plus loin, j'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Les textes bibliques sont faits pour être lus comme une expérience de vie, pour qu'éventuellement, plus tard, quelque chose nous soit révélé au travers de leur réminiscence spontanée. Et pourquoi pas au milieu d'une tempête. Bien sûr que notre barque est en danger. C'est notre condition humaine, basique. Mais le baptisé, comme ses disciples dans leur barque, qui pour l'instant vivent une espèce de catéchèse dans un baptême mouvementé, mouvement de porte avec, les disciples auront cette foi qui certes ne méprise pas le danger, la fragilité. Ils auront la foi pour toujours répondre à la détresse des autres, mais ils seront avec cette foi qui leur dit qu'ils sont déjà sauvés, qu'ils sont déjà relevés d'entre les morts, qu'ils ont déjà échappé à la tempête et à la noyade, et qu'ils sont déjà revenus sur la terre ferme avec leurs frères et leurs sœurs pour, par exemple, comme le raconte la finale de l'évangile de Jean, pour, par exemple, manger avec eux du poisson grillé. Oui, les récits bibliques ne nous préparent pas uniquement à affronter des tempêtes, mais nous préparent aussi au bonheur. Amen.